Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Minier.
Au sommaire, le feuilleton du Brexit. Aujourd'hui, qui paiera la facture?
Voilà, vous l'avez entendu, c'est la plus lourde défaite d'un dirigeant britannique depuis 1920, insistent les travaillistes. La première ministre Theresa May vient de perdre largement la validation de l'accord de retrait négocié avec l'Union Européenne. 17 mois de négociations rejetées, division chez les conservateurs et embarras peut-être de la classe politique. Que faire? Qui paiera la facture? On voit ça avec vous, Richard Davis, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone. Vous êtes historien, professeur de civilisation britannique à l'université Bordeaux-Montaigne et spécialiste des relations Grande-Bretagne-Union européenne. Alors je rappelle juste le score, 432 voix contre, 202 pour. Les deux tiers des conservateurs seulement ont validé l'accord. La majorité elle-même en péril avec le vote de défiance des travaillistes aujourd'hui. Seule incertitude, Richard Davis, c'était l'ampleur de la défaite. On parlait d'une vingtaine de voix, mais là c'est supérieur à 100 voix. Est-ce que ce n'est pas le pire des scénarios pour Theresa May?
En effet, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu une défaite aussi sanglante pour un gouvernement depuis très longtemps, hein. même plus que dans les années 1920. Donc sa position aujourd'hui, c'est très très incertain, avec le vote de confiance prévu ce soir par le Parti travailliste. Donc on ne sait toujours pas où on va, ni pour le Parti conservateur, ni pour le gouvernement, ni pour le Brexit.
Alors on va apprendre dans l'ordre, hein. Quand je dis pire des scénarios, juste un mot par rapport à l'Union européenne, il en sera question là dans les matins tout à l'heure, mais on parlait d'un ensemble de scénarios, cinq possibilités. Boris Johnson lui a dit qu'il s'agissait avec ce vote d'un mandat massif pour renégocier. Il y a une pression des milieux économiques pour une renégociation et un plan B, est-ce que ça vous semble possible, ça?
Enfin, il y a plusieurs plans B. Justement, le problème, c'est qu'il y en a tellement qu'on ne sait pas lequel on va choisir, finalement. Après, les questions de renégocier avec l'Union européenne me semblent peu probables parce que les Européens ne semblent pas très, très prêts à le faire.
Et alors, deuxième option, il y a la question du délai. Là, c'est intéressant. On a vu qu'une partie des conservateurs ont pris position pour cette nuit. Il y avait le ministre des Finances, Philippe Hammond, il y avait Greg Clark, il y avait Stephen Barclay, ministre du Brexit, qui ont pris position face aux dirigeants d'entreprise en assurant qu'il y avait une possibilité de demander ce délai. Est-ce que c'est ce vers quoi s'orienterait le cabinet?
Je pense que c'est inévitable qu'on demande un délai dans l'application de l'article 50, parce qu'avec le temps qui nous reste au Royaume-Uni maintenant, simplement il n'y a pas le temps de négocier un autre deal d'ici fin mars. Donc reporter l'application de l'article 50 me semble absolument inévitable maintenant.
Un délai avec peut-être quelques petits aménagements, a dit Juncker, mais aussi laissé entendre Emmanuel Macron hier. Mais il a ajouté, Emmanuel Macron, je le cite, on a été au bout de ce qu'on pouvait faire dans l'accord et on ne va pas, pour essayer de régler un problème de politique intérieure britannique, ne pas défendre les intérêts des Européens. Est-ce que repousser encore ce délai, ces négociations, ça ne reproduirait pas le même scénario au Royaume-Uni?
Probablement, oui, probablement. Mais pour l'instant, si on ne fait rien, si le Parlement ne vote pas une autre loi, justement pour demander le report de l'article 50, le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne sans accord d'ici fin mars. Donc il faut absolument, dans un premier temps, demander le report de l'article 50, de l'application de l'article 50, et ensuite essayer de renégocier notre deal. Mais est-ce que les Européens seront en position de proposer, d'offrir au Royaume-Uni des concessions assez importantes pour convaincre une majorité au Parlement? J'en doute.
Oui, ça c'est pour la relation avec l'Union Européenne. Et quand Emmanuel Macron dit un problème de régler un problème de politique intérieure britannique, est-ce que vous êtes assez d'accord? Est-ce qu'il y a eu un parasitage, disons, trop important jusqu'ici, des questions intérieures, disons fragilisation de Theresa May, possibilité pour les travaillistes de reprendre la main sur ces négociations et la validation de l'accord?
En effet, je pense que depuis très longtemps maintenant, pas simplement depuis 2 ans avec le Brexit, mais aussi si on remonte plus loin dans l'histoire, la question européenne a souvent été réglée ou négociée, débattue en termes de partis politiques, de questions intérieures au Royaume-Uni. Donc c'est un des problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui.
Et alors, qu'est-ce qui pourrait se passer aujourd'hui? Donc ce vote de défiance, il y a le discours de Corbyn tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que les travaillistes, tout simplement, pourraient emporter la mise là sur cette défaite?
Je pense que c'est peu probable parce que la majorité est toujours du côté du gouvernement, la majorité avec les unionistes de l'Irlande du Nord, et apparemment ils ont annoncé qu'ils voteront avec le gouvernement. Cela doit être suffisant pour que Theresa May et son gouvernement survivent, gagnent le vote ce soir.
Ce serait vraiment suffisant ou alors limite, on ne va pas faire de l'arithmétique fiction, mais je crois qu'il y a 317 sièges pour les conservateurs, il y a 262 sièges pour les travaillistes. Si on rajoute les 20 du DUP nord-irlandais aux conservateurs, on obtient 327. Il y a quand même une marge très peu importante là, si jamais certains travaillistes conservateurs votent contre.
Oui, tout à fait. Ça va être très très serré. Mais je pense qu'il n'y a rien de mieux pour réunir les conservateurs que une vote de défiance de la part d'une partie travailliste. Donc, je pense qu'ils vont faire bloc derrière Theresa May, même s'ils sont un grand nombre d'entre eux sont mécontents avec sa politique européenne.
Et alors sur Theresa May elle-même, donc elle est arrivée au pouvoir suite à la démission de Cameron à la tête des conservateurs et en même temps première ministre. Il y a plusieurs opinions, mais on sent quand même qu'il y a dans la presse britannique une certaine rancœur. Il y a le Huffington Post qui l'accuse dans une tribune cinglante d'hubris, d'incompétence prononcée qui ont conduit la Grande-Bretagne au bord du gouffre. Est-ce que c'est l'opinion répandue? Est-ce que vous êtes d'accord?
Je pense qu'elle avait un seul vrai objectif, c'était de négocier l'accord pour le Brexit, et elle a échoué. Je pense qu'elle a mal fait les choses. Aujourd'hui, elle parle de chercher un accord avec les autres partis politiques au Parlement. Elle aurait dû le faire depuis 2 ans. Je pense que justement hier, c'était un échec énorme pour le Premier ministre. Et c'est étonnant qu'elle puisse résister, qu'elle puisse rester au pouvoir après une défaite aussi importante.
Alors justement, qu'est-ce que vous retenez au moment où on en est? Est-ce que c'est plutôt la bonne résistance, étonnante résistance, on pourrait dire, de Theresa May, qui a quand même résisté à un vote aussi de confiance des conservateurs à la fin de l'année dernière? Ou alors, est-ce que c'est plutôt le fait qu'elle est au sein d'un parti conservateur en champ de bataille et, je le disais, lui-même fragilisé?
Le parti conservateur est tellement divisé et que justement, l'avantage pour Theresa May, c'est qu'il n'y a pas de consensus sur un autre candidat pour son poste. Donc, à la fois les Brexiteers auraient bien aimé avoir quelqu'un comme Boris Johnson, mais lui, il n'arriverait jamais à gagner la majorité des conservateurs de son côté, au moins des conservateurs au Parlement. Dans le pays, peut-être c'est autre chose. Mais donc, il y a comme tant qu'il n'y a pas d'autres choix, d'autres chefs qui se positionnent pour prendre sa place. Donc, je pense que pour l'instant, dans un premier temps, elle est pas menacée.
Ouais, pas de consensus, mais quand même des prétendants. Hein. On a beaucoup dit que Boris Johnson, aussi bien sa défection que ses prises de position, c'était une guerre larvée au sein du parti contre Theresa May. Et puis il y avait Dominic Raab hier, ex-ministre du Brexit, qui disait l'accord conduirait au bord de la falaise démocratique, ce qui a été perçu ironiquement par un autre député comme un pas pour prendre la tête des conservateurs aussi. Donc elle est fragilisée là, non?
Tout à fait, elle est très fragilisée. Il y a beaucoup de concurrents, de candidats qui aimeraient bien prendre sa place, mais il n'y a pas de consensus dans l'ensemble du parti. Donc il y a tellement de rivaux qui se neutralisent en fait.
Oui. Et alors pour la classe politique britannique, est-ce que vous voyez au point où on en est déjà une leçon du Brexit, peut-être concernant ou le souverainisme ou la question des institutions? C'est Olivier de France qui parlait d'une équation insoluble pour les institutions britanniques, ce Brexit, ce que laissaient entendre aussi certains parlementaires? Ou alors, est-ce que c'est ce qui se sont tous engagés dans une surenchère souverainiste, on pourrait dire, c'est parti?
C'est vrai que les événements récents posent des questions très profondes pour le Royaume-Uni et pour ses institutions. Est-ce que c'est vraiment au Parlement de prendre la main maintenant plutôt que le gouvernement pour décider la suite des choses? Est-ce qu'on doit respecter la voix du peuple, le référendum de 2016? Est-ce qu'on peut revoter? Tout cela, ça pose des questions vraiment profondes pour l'avenir du pays et pour sa démocratie. Donc il y a plusieurs arguments. Il y a ceux qui disent que si on revient et on demande un deuxième vote, un deuxième référendum, ça sera une forme de démocratie. D'autres disent non, le peuple a voté et qu'il faut respecter. Et maintenant, donc il y a toujours cette incertitude qui règne. partout. Et c'est ça le problème, un des problèmes.
Ouais, effectivement, hein, une défaite qui n'a pas levé l'incertitude. Et ben, on verra tout à l'heure ce qu'il en est de ce vote de confiance. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces explications aujourd'hui. Richard Davies, je rappelle, historien, professeur de civilisation britannique à l'université Bordeaux-Montaigne et spécialiste des relations entre la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni. Bonne journée.
Merci à vous.